décentralisation des réseaux qui nous intéresse.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You bellow with your fellows, get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Your caller, I do it as you like. You much ado about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force.
Bonjour.
Bonsoir.
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 Donc aujourd'hui, pour le Canu Info du 27 mars, on parlera de grève en Tunisie, de Nice, une ville pas très nice, la CGT contre les anti-mariages gays, la droite qui découvre la répression, prostitution, l'EPS, à Lyon comme au Sénat, tient à réprimer les prostituées. Ensuite, ce sera des brèves. Faut que ça se sache, les chroniques de la vie numérique et un agenda.
Du coup, je vais commencer par parler de la Tunisie et des grèves en hausse. Et je m'appuie en ce fait sur un article d'African Manager. Donc un magazine économique qui est daté de lundi, donc dans lequel il y a beaucoup de chiffres et surtout un souci économique pour eux avant tout, plus que social, mais ça permet de donner, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il permet de donner un aperçu de l'augmentation des grèves. Donc, durant le mois de janvier 2013, le nombre de grèves enregistrées a atteint 57. Dont 32 légales, contre 28 grèves observées durant la même période de l'année dernière. Et ça a donc une énorme hausse de plus de 100%. Donc le double, voilà. Et ça, ça provient du ministère des Affaires sociales de Tunisie. Donc chiffres qui montrent bien que les révoltes de 2011 ont contribué à ouvrir une brèche et que les mouvements sociaux s'intensifient depuis et continue. Donc au cours du mois de janvier 2013, 55 entreprises ont été touchées par les grèves, dont 43 sociétés privées et 9 publiques. Et d'une façon plus détaillée, les grèves ont touché principalement la douane maritime, commerciale et portuaire, le centre d'information, de documentation et des études, l'Institut national pédagogique et de la formation continue, Tunisie Autoroute, et la Caisse nationale d'assurance maladie, l'hôpital Hedié Tcheker à Sfax et l'école supérieure des sciences et techniques de la santé, ainsi que le secteur de l'enseignement secondaire, voilà, parmi les plus touchés. Et les principales revendications des grèves sont l'amélioration des conditions de travail, donc ça c'est la moitié des revendications, suivie par le déblocage des salaires et des primes, la solidarité avec et entre employés et l'amélioration des relations professionnelles. Donc le secteur le plus touché par les grèves est celui de la sous-traitance qui enregistre le taux le plus élevé de grève, suivi par le secteur des industries mécaniques et minérales, le textile et l'habillement, les matériaux et de construction et produits chimiques, l'agroalimentaire et les transports, l'administration et les établissements publics.
Ça fait presque tout ça, non ?
Ouais, voilà, ça montre qu'il y a des grèves partout. Et aussi, là, j'ai nommé la douane maritime, etc., et pas mal de trucs sur les côtes, en fait, parce que une des régions où les grèves a énormément augmenté, c'est la région de Sfax, où il y a cette ville, et c'est la deuxième ville économique du pays. Et les préavis de grève ont augmenté de 18% dans cette région. Donc aussi pour tout ce qui est sur les côtes. Et suivi par Ben Arous de 17%, Bizerte, Nabeul, Ariana et Tunis. Et la région minière de Kasserine, dont on a beaucoup parlé en 2011, n'a pas connu d'augmentation particulière parce que c'est déjà une région qui est qui a l'habitude de, d'être beaucoup en grève. Voilà. Et juste aussi pour parler des syndicats vite fait, les préavis de grève émanant de l'Union Générale du Travail Tunisien, donc l'UGTT, ont représenté 96% des mouvements déclarés, contre seulement 3% de la Confédération Générale des Travailleurs Tunisiens, CGTT. Voilà, et par contre, l'article que j'ai trouvé se garde bien de préciser si les revendications des grèves ont abouti. Donc, ce qu'on espère.
Alors, aujourd'hui, une chronique spéciale Ville de Nice. Alors, pourquoi cette chronique spéciale? Parce qu'aujourd'hui, en cherchant des infos, je suis tombé sur une première info d'un squat qui avait cramé à Nice. Et puis, un peu de fil en aiguille, j'ai trouvé plein d'autres trucs assez intéressants. Et du coup, bah, quand même, je voulais vous faire part que si vous décidez de faire un tour dans le sud de la France, eh ben, je vous déconseille d'aller à Nice, surtout si vous avez des problèmes de papier ou bien que vous squattez. Et encore plus si vous êtes musulman. Alors, pourquoi toutes ces mises en garde?
Si vous évitez d'aller en vacances en Russie, par exemple, pourquoi pas Nice après?
Ouais, tout, c'est ça, c'est vrai. Mais du coup, bah, on va venir sur le sur un incendie criminel contre un squat. Alors, ça se passe dans la nuit de jeudi à vendredi. Un squat hébergeant une dizaine de personnes sans pape a pris feu. Alors, il a visiblement pris feu pas tout seul, parce qu'un voisin a été placé en garde à vue et mis en examen pour avoir volontairement incendié l'immeuble. L'incendie a fait 2 morts et plusieurs blessés. Sur la dizaine de personnes qui habitaient dans cet immeuble, seul un couple avec enfant a été relogé. Et comme d'hab, bah, les autres peuvent bien dormir dehors, c'est pas très grave, même si intérêt à essayer de les faire brûler pendant la nuit. Mais Christian Estrosi, le charmant maire de cette ville, a déclaré, et là je cite, « partager les inquiétudes des voisins face à la montée de la délinquance et la recrudescence des squats sur lesquels il est mobilisé depuis 2008.
Ah, » On l'aime Christian.
Sous-entendu.
Non mais ça veut dire qu'il soutient du coup l'incendie.
L'incendie, hein.
Et c'est un peu texto ça qu'il dit. Ouais. Il comprend qu'il y a des voisins excédés et puissent aller foutre le feu.
Mais ça c'est pas de la délinquance, c'est de l'ordre public.
Exactement. Alors, je sais pas comment lui s'en occupe depuis 2008, mais peut-être que c'est lui qui a commandité l'incendie. On sait pas. Hein. On sait pas. Mais Christian Estrosi, eh ben, il est aussi confronté à d'autres gens que sont les identitaires niçois, qui là ont fait annuler le bail d'un local d'une association musulmane. Alors, le local était loué à bas coût à cette association qui organise des événements culturels et qui possède une salle de prière. Et il était loué, enfin le propriétaire du local étant la mairie. Et du coup, c'est bien sur la salle de prière que les identitaires ont réussi à gagner au tribunal administratif en jouant sur la loi de 1905, la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État qui interdit aux collectivités publiques de subvention de tout ce qui concerne les cultes. Et comme du coup ce local était loué en dessous du prix du marché à l'association, ils y voyaient donc une subvention déguisée. Sauf que quand même, on tient à signaler que c'est quand même assez courant que les villes fassent payer beaucoup moins cher leurs locaux à d'autres associations, parce que voilà, c'est des pratiques qui se font. Et également, dans toutes ces associations, on trouve tout un tas d'associations catholiques dont, en général, les identitaires n'ont pas trop grand-chose à redire. Quand même, rappelons que ce local avait subi plusieurs attaques de la part des identitaires avec des dives de tracts islamophobes et une distribution de soupe aux cochons à proximité du local. La mairie a déclaré qu'elle avait trouvé un accord avec l'association pour leur donner, pour leur louer le local un peu plus cher en disant que le but était quand même d'éviter les prières de rue, hein, parce que ça, Christian Estrosi, il fait pas non plus dans l'humanitaire. Et au passage, quand même, on pourra remercier ce fameux juge du tribunal administratif qui a trouvé un bon moyen de condamner la mairie à filer 1000 euros à Philippe Vardon. Philippe Vardon, qui est le chef des identitaires de Nice, qui s'est réjoui de ces 1000 euros et qui a déclaré qu'il allait s'en servir à financer son nouveau collectif qui s'appelle Islamisation Basta pour faire des affiches et des tracts. Okay. Et ben voilà, c'est beau, une justice qui condamne une ville de droite extrême pour avoir subventionné une association musulmane en la condamnant elle-même à subventionner une association d'extrême droite islamophobe. Et ben j'ai pas fini. Hein.
Fais-nous rêver. J'ai le sud qui brille dans les yeux.
Et là, et ben on trouve un nouvel arrêté à Nice qui est un arrêté anti-regroupement. Alors attention, il s'agit du nouvel arrêté municipal contre les regroupements de personnes. Alors bien sûr, cet arrêté ne concerne pas tout le monde, mais ça, ils l'ont quand même pas dit, et c'est juste les flics qui sont chargés de faire appliquer l'arrêté municipal aux personnes à qui ils pensent être ciblés, et il ne s'appliquera qu'au quartier populaire de Notre-Dame. Estrosi justifie cet arrêté car il y a des messages laxistes adressés depuis des mois par le gouvernement et notamment la garde des Sceaux. La délinquance augmente et les incivilités explosent. Alors c'est sûr qu'avec Valls en ministre de l'Intérieur, on a reçu 5 sur 5 son discours de laxiste sur les Roms et les délinquants qui envoient le... Et le délinquant, quand il envoie le raid dans un quartier de banlieue parisienne pour une histoire de racket dans le RERD, et quand il déclare que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie. Mais voilà, et ben, Estrosi se rend bien compte que le gouvernement est loin des réalités du peuple, car les Niçois, et là je le cite encore, les Niçoises et les Niçois sont exaspérés par ces personnes qui s'attroupent, se regroupent et stagnent pendant des heures en occupant abusivement les trottoirs de la ville et en les empêchant de circuler librement. Alors voilà, c'est vrai qu'il manque en France un observatoire national des occupations abusives de trottoirs. L'arrêté municipal concerne les horaires de 7h à 10h du matin et de 17h à minuit en pleine heure de pointe pédestre où il faut parfois slalomer entre la petite vieille qui marche tout doucement et les bandes de potes adossées au mur, un vrai calvaire.
Dur, dur.
And I'm still no joker, hope you're not laughing. Poet or pauper, wish to your classroom. Speak eloquent, though I am resident to the gritty. In a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, or rose by any other name.
Ah oui, pardon. Là ce matin, il y avait un rassemblement contre le train de l'emploi. Il y a eu quelques petits problèmes autour de ce rassemblement et on va vous laisser écouter quelqu'un qui était ce matin au rassemblement et qui va vous raconter un peu comment tout cela s'est passé.
Raconte un peu ce que vous aviez prévu de faire ce matin.
Donc voilà, donc ce matin il y avait une action à l'appel de la CGT. Puisqu'il y avait donc un truc qui s'appelle le train pour l'emploi ou l'industrie et l'innovation, un truc comme ça, enfin un nom bien ronflant. Et donc la CGT avait décidé d'aller tracter au sujet de l'accord emploi et pour dénoncer le fait que ce train constitue une mascarade, puisqu'en fait il propose 47 emplois, la plupart à temps partiel, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs en France. Donc voilà, donc il y avait un tractage syndical soutenu par le comité de lutte contre l'accord sur l'emploi et divers militants syndicaux et politiques. Donc voilà, on a tracté pendant une demi-heure, trois quarts d'heure là-dessus. On a informé les gens qui venaient pour ce train dans l'espoir de trouver un emploi. On a créé quelques slogans, etc. Voilà, ça passait plutôt bien. Et donc il y avait une rumeur comme quoi Arnaud Montebourg devait venir à ce train. Et vu que la Manif pour tous a décidé qu'il fallait se pointer à chaque fois qu'un ministre est censé venir, évidemment on n'y a pas coupé et il y a donc eu une centaine de partisans de la Manif pour tous, donc contre le mariage homo, qui sont venus manifester et qui ont essayé d'investir le quai. Et donc il y a eu un mouvement pour collectivement les empêcher d'investir le quai alors qu'on était en train de tracter. Et de fait, il y a eu quelques frictions, les flics étaient assez nerveux, apparemment il y a eu une arrestation après. Et il y a eu des échanges de slogans, donc voilà, nous on a gueulé contre les homophobes et eux ont répété les invitations à la sodomie et en gros ont balancé un paquet d'insultes homophobes, quoi. Voilà, pour résumer ce qui s'est passé.
D'accord. On a eu des nouvelles de la personne qui a été arrêtée ou...
Alors moi je sais pas parce que c'est quelque chose que j'ai vu après sur les articles dans la presse locale, sur internet. Et du coup la personne aurait été arrêtée pour détention de stupéfiants, mais c'est ce qui est marqué sur Lyon Cap, Lyon Mag, les trucs comme ça, quoi. Voilà.
Donc voilà, petite explication sur les consignes anti-gouvernement. En gros, donc les opposants au mariage gay considèrent que, étant donné que le gouvernement ne les écoute pas, et qu'eux, ils sont beaucoup, et qu'ils seraient majoritaires dans le pays, ils considèrent qu'ils doivent lancer une vaste campagne pour l'insurrection. Donc il y a eu des mots d'ordre comme ça, condamner les affrontements aux Champs-Élysées ce week-end. Et donc, ils ont prévu, a priori, de... Bon, bordéliser toute intervention du gouvernement qui se déplacerait dans en province ou y compris à Paris.
Bien, je vais justement continuer une petite chronique coup de gueule sur cette droite qui découvre la répression policière. Les pauvres chéris, elle est quand même dure leur vie. Depuis que la droite la plus conservatrice et la plus dégueulasse est devenue le mouvement d'opposition légitime et médiatisé à la politique de droite molle du PS au pouvoir, on a l'impression de découvrir les coulisses d'un monde qu'on n'imaginait pas. Les faits parlent d'eux-mêmes, et oui, il semblerait que nous ne soyons plus en démocratie. Ce pays est depuis quelques mois seulement devenu un état surfliqué, liberticide, où l'on fait tout pour étouffer les mouvements de protestation, où la voix des manifs n'est plus entendue par notre sourde république misère. C'était quand même mieux avant. Nous n'énumérerons pas ici, car la liste est trop longue, toutes les lois et aménagements libertaires mis en place lors du quinquennat Sarkozy et son gauchiste de gouvernement pour servir ce propos. Mais voilà, du coup, les familles aisées, les bourgeois, les bourgeoises, les blancs et blanches catholiques, les masculinistes et toute l'extrême droite se prend dans la gueule quelque chose dont ils n'ont visiblement pas l'habitude. Et oui, il ne suffit pas toujours de bouger le petit doigt pour que le monde vous obéisse. Ils n'ont peut-être pas saisi que le gouvernement ne pouvait pas du tout se permettre de retirer ce projet de mariage pour tous, vu qu'ils mènent une politique économique ouvertement libérale et que c'est un peu quand même leur seule action de gauche, vaguement, quoi. Ça serait quand même un coup à ce que ce soit les MJS qui lancent directement l'insurrection généralisée en protestation contre le gouvernement. Et oui, dur dur donc pour toute cette frange de la population qui est si habituée à donner des ordres, bien protégée, loin de la vraie vie, et qui découvre aujourd'hui la France avec des yeux d'enfant. Incroyable, la préfecture peut refuser le trajet d'une manif. On n'a jamais vu ça, quoi. Incroyable, les CRS peuvent violenter des personnes qui tentent de percer leur cordon. Incroyable, les mêmes CRS font parfois usage de gaz lacrymo sans même distribuer préalablement de protection adaptée. Et c'est que ça pique les yeux, ces trucs-là. Eh ouais. Incroyable, les chiffres des flics et ceux des orgas dans les manifs sont quand même très différents, non ? Vous ne trouvez pas ? Alors ça y est, grâce à ce texte de loi et à la vigilance catholique des nouveaux chiens de garde de la famille, nous sommes toutes des insurgés, des révoltés avides de changements immédiats et radicaux. La massification de la rébellion par le crucifix, franchement, j'y avais pas pensé, mais ça arrive. Mais le plus affligeant, quand même, dans toute cette histoire, et c'est vraiment pour ça que j'ai craqué aujourd'hui et que j'avais envie de faire un coup de gueule, c'est même pas cette grande bande de blaireaux cathos, c'est quand même vraiment, franchement, la presse. Les radios, les journaux et j'imagine les télés qui font les naïfs pour permettre d'étaler de partout leurs propres idées conservatrices. En veux-tu, en voilà, ils n'arrêtent plus. Je me demande si c'est même possible de savoir en vrai combien de grues, de toits et d'immeubles et de monuments ont déjà été occupés par des mouvements de gauche depuis des décennies et des décennies et qui ont obtenu en général quoi 3 lignes dans le journal local, alors qu'il suffit d'un masculiniste sur une grue, ça fait 3 jours la une. Toutes les personnes qui ont une certaine habitude et pratique de la contestation sociale, qu'elles soient citoyennes, militantes ou syndicales, se sont déjà, a priori, fait charger par les CRS lors d'une grève, bastonnées d'ailleurs bien souvent, ont respiré de près les lacrymos et la bombe au poivre, ont déjà goûté du tonfa, etc. Combien de squats de familles roms ou d'indigents de tous âges, de toutes nationalités, se sont fait gazer comme des rats par la police nationale pour les évacuer de leur logement? Les masses médias sont quand même fascinants. Il faut bien leur reconnaître un réel talent pour savoir réinventer les scoops et les nouveaux sujets de société les plus incroyables. Il reste d'ailleurs les entreprises françaises, selon un sondage, les plus performantes dans le recyclage des déchets, selon une étude du journal américain Forbes en vente en kiosque.
Eh ben alors, je ne sais pas si toutes ces personnes que tu viens de nous décrire sont au courant que, par exemple, les prostituées sont réprimées depuis bien, bien, bien longtemps. Mais en tout cas,
arrête, ils vont faire une manif.
C'est pas parti pour s'arrêter. C'est pas parti pour s'arrêter. En fait, on vous a parlé mercredi dernier d'une opération de police qui avait eu dans la nuit de mardi, du mardi 19 au mercredi 20 à Gerland, où la police, elle était venue, elle avait entouré un périmètre, elle avait contrôlé plein de prostituées qui bossaient dans des camionnettes. Et donc on a enfin les chiffres de ce que ça a donné. 70 prostituées contrôlées, 56 contraventions, 33 camionnettes mises en fourrière pour non-respect de l'arrêté municipal. C'est à peu près 80% des véhicules qui ont été contrôlés. À l'issue de cette opération, il y a eu 29 procédures judiciaires pour racolage qui ont été établies. À un moment où il y a quand même un projet de loi qui vise à l'abrogation du délit de racolage. Et il y a 5 personnes qui ont été placées en rétention administrative car elles étaient en situation irrégulière sur le territoire. En fait, ça ne s'est pas calmé. Il y a eu une autre opération de police jeudi et il y en a eu une autre cette nuit. Et cette nuit, il y a 40 camionnettes qui auraient été mises en fourrière pour faire en sorte que ça leur coûte plus cher que ça ne leur rapporte. Ça, c'est les propos de la chère commissaire divisionnaire Nadine Le Callonec. Alors, vous pouvez la rajouter dans un tiroir de votre tête. Parce que Nadine Le Callonec, elle dit aussi dans Le Progrès, l'article d'aujourd'hui, elles vont devoir s'habituer à nous voir. Il faut qu'elles sachent qu'elles vont craquer avant nous. Voilà.
Oh, mais c'est la pression de ouf, quoi.
C'est la pression de ouf. Donc hier, il y avait une quarantaine de flics qui ont convergé à Gerland. Et donc voilà, qui sait, en fait, finalement, qui sait qui vont réprimer? C'est principalement des femmes nigérianes ou guinéennes de nationalité ou d'origine guinéenne et qui sont passées par l'Espagne et puis qui, comme elles n'avaient pas de boulot en Espagne, et ben elles sont venues tapiner ici. Donc voilà, les objectifs, on les connaît, hein, c'est faire du fric pour la fourrière, parce que bon, faut arrêter de se poser la question de savoir si la ville de Lyon, elle profiterait pas de la situation pour faire du fric. De fait, la ville de Lyon, elle fait du fric avec ça. Et puis voilà, faire un maximum d'interpellations pour racolage et de procédures judiciaires pour racolage juste avant que la loi soit abrogée, si elle est abrogée. Et puis, il y a un des objectifs qui est clairement de virer des personnes qui n'ont pas de papier. Donc voilà, cette nuit, en fait, il y a eu... en fait, ils disent que l'opération de police, elle se justifie aussi parce que les salariés des entreprises qui sont dans le lieu, le périmètre où il y a des nanas qui se prostituent, eh ben, ils sont en insécurité. Alors là, pareil, toujours dans le progrès, il y a des citations. Ce sont les clients des prostituées qui nous importunent et nous, on a peur. Donc voilà, en fait, c'est ça. La prostitution, ça attire une faune, entre guillemets, qui dérange les personnes. Et donc, il y a plein de femmes qui commencent super tôt à 4h30 du matin parce qu'elles bossent à la poste. Et du coup, elles ne se sentent pas en sécurité parce qu'il y a des mecs, des clients. Et on imagine bien que parmi ces clients, si tous, ce n'est pas des gros lourds, il peut y en avoir une partie qui sont des gros lourds et qui interpellent les nanas et qui les font chier. Donc voilà, la solution, c'est de virer les putes. Voilà, parce que ça, c'est évidemment la solution, c'est-à-dire il y a des mecs qui sont relous dans la rue, donc la solution, c'est de réprimer des femmes. Ok, tout va bien. Tout va bien. Donc, en fait, là, il y a Karen, qui s'exprime souvent dans la presse, qui est prostituée à Gerland, et qui a écrit un petit article qui a été publié sur un site de rue 89, que vous pouvez aller voir ça. Elle, en fait, elle pense que, clairement, la ville de Lyon... elle est en train de se faire un blé pas possible sur leur dos.
Sur tu leur peux cul. Préciser quand même, du coup, on l'a déjà reçu ici, mais que Karen, du coup, est une représentante un peu et est travailleuse du sexe, du coup.
Oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu en contact avec la plupart des personnes du collectif des prostituées de Gerland. Et du coup, Karen, elle dit que dans les chiffres qui sont avancés dans la presse, c'est du foutage de gueule, en fait. Elle dit, on nous dit qu'environ 500 camionnettes auraient été mises en fourrière et 9000 PV dressés dans le courant de l'année. Si on fait un calcul grossier, 9000 PV à 35 euros aboutissent à la somme de 315 000 euros et 500 mises en fourrière à 136 euros pour récupérer le camion aboutissent à la somme de 68 000 euros, soit un total de 383 000 euros pour l'année écoulée. De qui se moque-t-on ? Sachant qu'en moyenne, il y a une vingtaine de camionnettes enlevées à chaque passage, 3 fois par semaine, ça voudrait dire qu'on aurait subi la fourrière uniquement 2 mois dans l'année 2012. Pour moi qui le vis au quotidien, ces chiffres sont largement sous-estimés. Donc voilà, les 383 000 euros, c'est sous-estimé. Donc c'est une manne financière, en fait. Enfin, clairement, il faut voir ça. Du coup, Karen, elle s'insurge un peu sur le fait que en fait, c'est il y a plein de proxénètes soi-disant qui sont criminalisées, c'est-à-dire qu'elle fait un parallèle un petit peu entre sa coiffeuse et la ville de Lyon. Elle dit, en fait, la loi considère que ma coiffeuse est une proxénète pour 30 euros la coupe, et donc comment la loi considère ceux qui nous dépouillent de plusieurs milliers d'euros. Elle dit qu'en gros, quand elle va chez sa coiffeuse, elle paye 30 euros, mais elle ressort avec un brushing, alors qu'avec l'État ou la municipalité, elle n'a rien en compensation, si ce n'est le droit de récupérer sa camionnette à la fourrière. Donc en fait, elle redit encore que c'est une question de survie pour plein de gens, qu'il y a tous les matins des milliers de gens qui se lèvent en se demandant comment ils vont pouvoir manger, s'abriter, etc., trouver du travail ou simplement le garder. Et elle se pose toute la même question avec une boule dans le ventre, parce qu'elles ne peuvent pas exercer leur boulot. Et elle dit qu'on leur prend, on leur ponctionne leur argent de façon légale, mais injuste. Il y a des injustices dans la loi, quoi. Mais bon. Donc, en fait, elle termine en disant que cet élu qui décide et fait appliquer les arrêtés municipaux avec ses pompes impeccablement cirées, une poignée de main chaleureuse et le sourire qui va avec, elle se demande vraiment s'il n'est pas un proxénète qui s'ignore.
Ou qui s'assume.
Ils ont un peu du mal à s'assumer, les socialistes, là-dessus. Pendant ce temps, en fait, ce qui se passe au Sénat, c'est quand même assez édifiant. Il y a du coup une sénatrice écologiste, on en avait parlé aussi la semaine dernière, qui s'appelle Esther Benbassa et qui a déposé un projet de loi pour l'abrogation du délit de racolage. C'est un délit qui avait été introduit par la loi pour la sécurité intérieure de 2003. Et ce délit, le texte de Benbassa, il a été adopté à l'unanimité en commission des lois et il doit être débattu demain, jeudi 28. Et là, paf, coup de théâtre, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est que, dans la nuit, il y a un sénateur PS qui a déposé une motion conservatoire sur ce texte-là. Il n'y avait aucun amendement qui était déposé, rien du tout. Et là, paf, le groupe PS a déposé une motion conservatoire et un amendement qui punit le racolage d'une contravention de 5e classe, soit un retour à la situation d'avant 2003. Ils ont vraiment du mal, les socialos, à lâcher le fait qu'on va dépénaliser la prostitution, on va arrêter de faire chier les prostituées. Non, ça, ils peuvent pas. Donc, en fait, l'écologiste, la sénatrice écologiste Benbassa, elle est complètement atterrée par cette histoire. Et elle dit, mais comment ça se fait que cet amendement, il passe dans la nuit comme ça, sans que personne soit au courant et voilà, bon, ça, c'est un peu leur cuisine interne, parce que ça se fait pas entre eux, normalement, blablabla. Et en fait... donc il y a un sénateur qui dit ben voilà c'est moi et puis on n'est pas tous d'accord au Sénat sur le fait que au PS on n'est pas tous d'accord sur le fait qu'il faille vraiment dépénaliser complètement le racolage, donc on en discute etc. Il faut qu'on examine ça, qu'on se mette d'accord. Alors bon, dans les sénateurs PS, la personne ne l'ouvrait trop là ces derniers jours en disant non mais moi bon, enfin personne voulait prendre position. Et en fait, finalement, ils ont retiré leur motion conservatoire. Donc, le texte, il ne va pas être envoyé en commission. Mais ils maintiennent l'amendement pour éviter tout vide juridique. Donc, voilà. Ils veulent qu'il y ait une contravention de 5e catégorie. Parce que, bien sûr, alors oui, ils sont contre le racolage passif, parce que ça fait des prostituées des délinquantes et que vraiment ça craint. Mais le racolage actif, quand même, on ne peut pas laisser faire. Et voilà. Et... Donc, cet amendement-là, ça va complètement dans le sens de la politique abolitionniste qui a toujours été défendue par le PS. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent abolir la prostitution et ils disent qu'ils s'en prennent pas aux femmes et qu'ils veulent juste criminaliser les clients et les proxénètes. Mais en fait, on voit bien que dans cette politique abolitionnisme, c'est de fait des politiques de pénalisation de la prostitution et des prostituées, parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher là-dessus. Si vraiment ils s'en fichaient de pénaliser les femmes, ça fait longtemps qu'ils auraient abrogé ce racolage. Après, bon voilà, la position de Benbassa, elle est plutôt sur une position qui rejoint les revendications des travailleurs du sexe, c'est-à-dire des droits, un statut et une protection, et voilà. Mais voilà, on sent vraiment que le PS se refuse à pleinement dépénaliser la prostitution, qu'il nous resserve encore une fois, qu'il faut que le gouvernement s'engage sur une grande loi sur la prostitution, de façon à aborder tous les aspects de la question, la réinsertion, la lutte contre le proxénétisme, la lutte contre les réseaux, la lutte contre la traite, etc., etc., etc. Et du coup, il nous renvoie toujours à cette fameuse loi qui est dans les cartons de Najat Vallaud-Belkacem et qui serait, en théorie, présentée à l'automne.
Du coup, après le Sénat, est-ce que la loi elle va retourner à l'Assemblée nationale, dans les allers-retours entre les deux chambres, ou c'est normalement là qu'elle est...
Eh bien, normalement, après, elle passe à l'Assemblée, je crois. Encore, après le Sénat, ouais. Voilà, donc à suivre.
Et puis, on peut dire que gouvernement de droite, gouvernement de gauche, même combat.
Alors, les grévistes de PSA Aulnay ont occupé ce matin une annexe du bureau du ministère du Travail. Et ils étaient environ 150. Ils sont venus là pour réclamer l'annulation des mesures disciplinaires contre les grévistes. Une demande de rendez-vous avait été demandée par les syndicats le 21 mars pour rencontrer le ministère. Enfin, pour avoir rendez-vous avec le ministère, qui n'a pas pris soin de répondre. Et ben, ils ont quitté la salle une fois que un des représentants du ministère du Travail leur a fait la promesse qu'une délégation allait venir ultérieurement et allait recevoir les différents syndicats. En tout cas, on espère qu'il respectera sa promesse, mais ça lui apprendra bien à mépriser les grévistes la prochaine fois s'il veut pas se retrouver avec 150 grévistes dans son bureau qui ont déjà montré qu'ils étaient prêts à beaucoup, beaucoup de choses quand ils rentraient quelque part. Il répondra plus vite à leurs lettres.
Et on parle beaucoup dans ce journal des anti-mariages pour tous. Et là, aujourd'hui, c'est assez drôle, il y a eu une alerte à la bombe qui a interrompu ce matin une conférence de presse à Paris, donc des opposants au projet de loi sur le mariage pour tous. Donc la police a fait état vers 10h d'un appel anonyme annonçant qu'une bombe allait exploser dans les 20 minutes et a fait évacuer le café du 15e arrondissement de Paris où se tenait depuis une heure la conférence de presse du collectif La Manif pour tous.
Et alors, bonne nouvelle, vous voulez savoir quoi ?
Vas-y.
Et ben, le délit d'offense à chef de l'État va être abrogé. Ce qui veut dire que dans pas longtemps, on pourra insulter François Hollande autant qu'on le veut. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Pas tout de suite, hein, je vous préviens, c'est pas encore passé, en fait, attention.
Alors, une autre brève donc sur l'Ouest, la ZAD, zone à défendre, donc le procès de la Châtaigne. Donc le collectif qui a été construit en novembre avec plein de cabanes a eu lieu à Saint-Nazaire hier, mardi, et le tribunal a donc autorisé l'expulsion d'opposants, ce qui veut dire que possibilité d'expulsion immédiate, 450 euros par jour d'astreinte au bout de 8 jours. Sachant que bah il y a la commission du dialogue là qui a encore lieu, donc pour l'instant c'est pas expulsé et donc on se demande si ça va être expulsé dans les jours qui viennent ou s'ils vont attendre un petit peu. Sinon Bellevue, un autre squat qui est tenu par les paysans là-bas, le rendu du procès de la ferme aura lieu demain et AGO donc a demandé des amendes de 1000 euros par jour, 20 000 euros pour dommages et intérêts et 2000 euros de frais de justice, sachant qu'ils occupent une ferme qu'ils allaient détruire. Sur place, donc ça s'organise pour défendre donc Bellevue et la Châtaigne. Et les appels à réagir partout en cas d'intervention policière sont remis au goût du jour. Et donc, pour vous redire, je vais juste en dire un. Contre l'aéroport et son monde, s'ils détruisent notre lieu d'organisation, nous occuperons les leurs. Donc il y a un appel dans les 48 heures qui suivraient une destruction de la Châtaigne à se rassembler devant les préfectures ou les sous-préfectures, les mairies, etc. pour les occuper. Et il y a des camarades...
Partout en France ou juste
partout en
à
France.
Nantes.
Et il y a des camarades en ce moment en prison. Un qui a été libéré... aujourd'hui, et ça c'est chouette, et une autre personne qui vient d'être condamnée à 6 mois avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il risque en ce moment d'être enfermé.
Chut, écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
pièce et bouton cousu de fil blanc. On pourrait croire que c'est un nom de code de la Deuxième Guerre mondiale sur la radio, mais non, pas du tout. C'est le titre assez comique, et vous allez le comprendre un peu au fur et à mesure, qu'a choisi un compte-rendu d'un collectif qui vient de se monter dans l'Essonne, en banlieue parisienne, autour du procès de l'évasion de Palaiseau, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Après, comme j'imagine que tout le monde n'écoute pas toutes les semaines, je vais reprendre un petit peu tout ça, désolé pour les redites de nos fidèles auditeurs et auditrices. Mercredi dernier, donc, a eu lieu le procès en appel d'Ibrahim El-Louar, qui a été condamné à 2 ans d'emprisonnement par le TGI d'Evry le 18 janvier dernier, pour vol et violence en réunion sur agent dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 10 jours. C'est toujours très sexy, un tribunal. Et soustraction à une mesure d'éloignement. Il a également, et ça c'est quand même vraiment dégueulasse, été condamné à verser des dommages et intérêts de plus de 1600 euros à 2 flics. Ça se passait du coup, petit rappel des faits, le 16 décembre 2012. Il y avait 4 retenus au centre de rétention de Palaiseau qui avaient réussi à s'évader après avoir subtilisé, ça c'est cool, un badge magnétique d'un des flics du centre. Un badge qui ouvre un peu toutes les portes là. Suite à cela, un 5e retenu, et c'est donc ce fameux Ibrahim, qui a été arrêté et placé en garde à vue, accusé d'avoir participé à l'évasion. Franz Pièce, c'est son vrai nom, maton au centre, l'a accusé de l'avoir ceinturé et maîtrisé pendant que les autres lui dérobaient son badge et prenaient la fuite. Sa collègue, Coralie Bouton, arrivée en renfort, l'accusait, elle, de l'avoir fait tomber au sol et d'avoir essayé de lui prendre ses menottes et son badge. Après une très très courte instruction de moins d'un mois, il avait donc été jugé sans bénéficier de l'assistance d'aucun avocat, bien qu'il en avait demandé un, mais vu qu'il parle pas français, il avait pas compris des histoires de délai, il s'était retrouvé avec personne. Lors de l'audience, les faits avaient été requalifiés, ils sont passés de tentative de soustraction à une mesure d'éloignement et violence ayant entraîné moins de 10 jours d'ITT, à vol et violence en réunion, sur agent dépositaire de l'autorité publique et entraîner une unité de moins de 10 jours. Et en fait, c'est la modification de ce truc, et bien c'est quand même vraiment dégueulasse, parce que du coup ça leur a permis d'appliquer une récidive, puisqu'il avait eu une précédente petite condamnation pour vol, et de faire passer la peine encourue de 3 à 14 ans de tôle. Du coup, comme quoi il y a des mots qui ont vraiment des conséquences très 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 lourdes. Du coup, pendant l'audience, il y a les vidéos des caméras de surveillance du centre qui ont été visionnées. Comme l'a fait remarquer l'avocate de la défense commise d'office, du coup, le tribunal, et je la cite, devait être en possession de lunettes spéciales qui altéraient sa capacité de vision, puisque, semble-t-il, sur les images qui ont été vues par tous et toutes lors de l'audience d'appel, on ne voit rien. On voit rien de ce qui s'est déroulé, comme l'ont déclaré les fameux pièces et boutons. Déjà, on voit vraiment rien. Les retenus qui ont des rebelles badges, ils avaient pris le soin d'éteindre la lumière avant, du coup c'est vraiment tout noir. On voit juste des ombres qui scintillent, un policier qu'on reconnaît, parce que bon, il a un uniforme, du coup il y a un truc qui se voit un petit peu comme ça, visiblement. On voit après, en tout cas, 2 flics qui tabassent quelqu'un dans le couloir. Et du coup, Ibrahim, là, qui était en procès, nie depuis le début avoir participé à l'évasion. Mais par contre, c'est toujours reconnu dans la personne qui s'était fait tabasser. Du coup, il en mange quand même vraiment plein la gueule. Il y a un PV qui a été établi en garde à vue, qui d'ailleurs constate qu'il porte de nombreuses traces de coups. Et lors de cette garde à vue, Ibrahim a essayé de se mutiler, d'ailleurs, avec une lame de rasoir qu'il avait sur lui. Ce à quoi les flics ont répondu en le gazant, puis en l'entravant les pieds et les mains jusqu'à ce qu'il soit déféré. C'est toujours chouette, cette histoire. Voilà, donc lors de l'audience en appel, à laquelle il y a quand même une trentaine de personnes qui étaient présentes en solidarité, il y avait eu un appel qu'on avait relayé la semaine dernière. L'avocate a plaidé le fait qu'il n'avait pas pu se défendre en première instance et qu'elle-même n'avait pas pu préparer la défense comme elle aurait souhaité, puisqu'elle n'a pas eu accès aux vidéos, elle n'a pas pu bénéficier d'un interprète pour s'entretenir avec son client qui ne parle pas français pendant tous les jours avant l'audience. La personne accusé n'a par contre pas varié du tout dans ses déclarations. Il a continué à réfuter les accusations des flics, et son avocate a pu mettre en avant le fait que les flics, eux par contre, ont fait de nombreux témoignages incohérents, des déclarations policières et les images vidéo qui se contredisent tout le temps, etc., etc. Du coup, le procureur a demandé la confirmation des chefs d'inculpation et de la peine, ce qu'on
ce qui n'est pas très étonnant de la part d'un procureur. L'avocate, elle, a plaidé la relaxe. Le jugement sera rendu le 2 avril prochain, et du coup, il reste en préventif juste là. Et on vous tiendra au courant des suites de cette affaire.
Il faut que ça se sache.
Les papiers, ils sont jamais dans le bon sens. Alors, on va parler à présent d'une agence dont on vous parle très souvent dans la chronique « Il faut que ça se sache ». C'est cette agence Frontex, Frontex pour frontières extérieures, et qui veut dire, parce que du coup c'est toute une agence internationale, en gros son nom officiel c'est Agence Européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États. C'est toujours des poètes, hein, les administratifs. Du coup, c'est l'Agence pour la sécurité des frontières de notre forteresse de l'Union Européenne. Son siège est à Varsovie. Elle est responsable de la coordination des activités des gardes frontières de l'Union Européenne avec les États non membres. L'agence est opérationnelle depuis octobre 2005 et en ce moment, son directeur s'appelle Ilkka Laitinen. Le budget de Frontex provient de subventions de l'Union Européenne. Ça s'élève à 285 millions d'euros par an, sachant que quand même, ce budget a été multiplié par 15 dans les 5 dernières années. Alors en gros, Frontex, c'est quoi ? C'est une machine hyper opaque, puisque du coup les responsabilités sont diluées dans une espèce de brouillard international d'administration à travers l'Europe, etc. etc. C'est une agence qui du coup s'occupe de toutes les frontières de l'Union Européenne, du coup les frontières extérieures, pas intérieures, mais juste toutes les frontières autour. Il y a plein d'agents partout, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font, à part qu'ils doivent empêcher les migrants pauvres d'entrer chez les riches, ça c'est à peu près clair. Frontex, c'est quand même un nom sur lequel on se cogne dès qu'on cherche des infos sur les migrations, et qui est quand même célèbre pour avoir un matos hyper sophistiqué, des milliers de caméras de surveillance un peu partout, une organisation qui est quasi militaire dans toutes les zones, et puis aussi des zones de rétention non officielles qui sont très très peu énumérées, même par plein de rapports, etc. Et aussi célèbre pour son habitude d'outrepasser largement le droit européen en matière de migration. Frontex, c'est le symbole de la politique sécuritaire en matière migratoire, c'est le bras armé des membres de l'Union européenne qui pose question notamment concernant la violation des droits lors de l'interpellation et du renvoi forcé des migrants et migrantes. Il y a quand même d'énormes rafles qui ont lieu un peu partout à l'extérieur des frontières de l'UE, qui finissent par un gros package en charter, qui passe même pas par les tribunaux, tout ça pour lutter pour ce que l'Europe appelle l'invasion. Et la base des textes sur le droit de demande d'asile semble constamment violée. Que se passe-t-il véritablement aux frontières ? Qui est responsable de ce qui se passe ? Eh bien, mercredi dernier, s'est lancé autour du réseau Migre Europe la campagne Frontexit. Frontexit, un jeu de mots subtil. Frontexit, donc, à Bruxelles. Une campagne soutenue par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme du sud et du nord de la Méditerranée. Les objectifs, c'est quoi ? Eh bien, réclamer la transparence sur le fonctionnement de Frontex, exiger le respect des droits des migrants et migrantes aux frontières. Et à travers cette campagne Frontexit, un mouvement interassociatif international demande du coup des comptes à Frontex, à l'Union européenne, aux États membres et aux États partenaires. États qu'on a vu qui sont tout autour de la Méditerranée et qui sous-traitent un petit peu la rétention en dehors de l'Europe. Frontexit questionne donc l'impunité aux frontières et le traitement envers les personnes migrantes, d'où qu'elles viennent et quelles que soient les raisons qui les conduisent en Europe.
Il faut que ça se sache.
Et ben, c'est quand même pendant du coup le lancement de cette campagne, il y a deux représentants d'associations maliennes qui étaient invités à venir à Bruxelles pour parler des conditions de migration du point de vue malien. Et alors le 20 mars, ils vont pour prendre leur avion pour honorer cette invitation. Et comme il s'agit de personnes travaillant sur les migrations et frontières entre le Nord et le Sud, on peut se douter qu'ils n'ont pas fait leur demande de visa à l'arrache pour éviter tout problème. Et ben, malgré tout ça et toutes les précautions qu'ils ont pu prendre, c'est raté. À la vérification des visas avant embarquement, les agents de Securicom trouvent que leur visa est un faux. Alors, on va faire une petite parenthèse. Securicom, c'est quoi ? Securicom, ce sont des agents privés employés par les compagnies d'aviation pour vérifier les visas des passagers et passagères à destination de l'Europe.
Tiens.
Car, les sous-traitants encore.
Exactement. Et pourquoi ils ont fait ça là ? C'est pourquoi les douaniers ça suffit pas ou ça ? Eh ben parce que l'Europe fout des amendes aux compagnies à chaque passager qui, une fois arrivé en Europe, se voit refuser l'accès au territoire par le pays accueillant. On peut pas trop le dire accueillant dans ce genre de situation. Eh ben voilà, ça, il s'agit d'un des multiples moyens de pression qu'utilisent les pays du Nord sur les pays du Sud pour le contrôle des frontières. Eh ben leur embarquement est donc refusé. Ils reviennent le lendemain après avoir racheté deux billets d'avion et munis de certificats d'authenticité fournis par l'ambassade des Pays-Bas. Pour certifier que quand même c'était bien des vrais visas, ils arrivent à embarquer sur un vol qui fait Bamako-Bruxelles avec une escale à Abidjan. Mais voilà. Pendant l'escale à Abidjan, toujours Securicom décide que leur billet de retour dépasse la durée de leur visa. Sauf que, ben, leurs billets de retour sont prévus pour le 4 et le 6 avril et que leur visa s'expire le 14 avril. Bon, alors, normalement, toute personne censée voit un visa. C'est que t'as un visa, c'est un mois, deux mois, trois mois, un an. Tu prends le moment de la date de départ, tu fais le calcul. Eh ben non, là les agents n'ont rien voulu savoir, ils ont beau faire le calcul 10 fois, ils disent quand même mathématiquement peut-être que ça correspond, mais on s'en fout. Et du coup ils les ont forcés à prendre un billet retour pour le 30 mars qui arrive à Abidjan. Bon alors, ils arrivent à Abidjan c'est en Côte d'Ivoire, pourquoi pas à Bamako comme ils sont quand même maliens. Bon bah ça on s'en fout, de toute façon pour tout le monde qui reste pas en Europe, je veux dire, c'est pas très important pour ces agents-là. Alors au total 31 heures d'aventure, 2 billets aller et 2 billets retour par personne. Ah, et ben, sauf que ben voilà, c'était des personnes qui étaient censées se rendre à Migros-Europe. Alors Migros-Europe dénonce les pratiques arbitraires de suspicion à l'égard des habitants et habitantes des pays du Sud et ainsi que la privatisation des contrôles des frontières. Voilà.
Ça sache.
Une dernière petite rubrique dans ce Faut que ça sache. Le Conseil d'État français qui abandonne les réfugiés syriens à leur sort. Mais c'était en janvier dernier, très discrètement, sans aucune directive publiée dans quelque journal que ce soit, communiquée à qui que ce soit, ni dans la presse, ni journal officiel, ni rien. Le gouvernement français a décidé d'imposer à tous les Syriens qui souhaitaient transiter par un aéroport français l'obtention préalable de ce qu'on appelle un VTA. Un VTA, c'est un visa de transit aéroportuaire. C'est un papelard qui, du coup, on l'imagine, est particulièrement chaud à obtenir dans un contexte de désorganisation politique. Et on imagine quand même que c'est un pays qui est en guerre civile depuis un sacré bout de temps et où il est déjà pas forcément évident d'avoir ne serait-ce qu'accès au lieu où se tiennent les autorités consulaires françaises. Qu'est-ce que c'est que cette obligation ? Eh ben, ça entrave tout simplement la possibilité pour des Syriens d'échapper à la répression, à la guerre, ou de sortir des camps des pays limitrophes, où près d'un million d'entre eux survivent quand même dans des conditions qu'on pourrait dire, pour dire poli, plus que précaires. Qu'est-ce que c'est la raison officielle ? Ça veut dire quoi ce signe que tu me fais depuis tout à l'heure ? Ah d'accord, ok, faut que j'aille vite. Je comprenais pas du tout, c'est pas clair. La raison officielle, eh ben, tout bêtement, éviter que des Syriens ne déposent une demande d'asile à l'occasion de leur transit par un aéroport français. Et qu'est-ce que c'est le prétexte ? Eh ben, le code communautaire des visas, qui permet aux États membres d'adopter une telle mesure en cas d'urgence due à un afflux massif de migrants clandestins. Et c'est là que c'est vraiment dégueu, car il n'y a aucun afflux massif de Syriens dans les aéroports français. En gros, il y a 350 Syriens qui ont été maintenu en zone d'attente en 2012 sur un total de 9000 personnes, ce qui est quand même pas du tout un truc hyper ouf. Et puis bon, au passage, ça semble presque décalé, mais quand même de rappeler qu'un demandeur d'asile, c'est quand même pas un clandestin, il y a quand même un statut juridique entre les deux. Du coup, l'ANAFE et le GISTI ont porté l'affaire devant le Conseil d'État, mais il n'y a pas de doute que cette mesure illégale porte atteinte à l'exercice du droit d'asile. Et par deux ordonnances, qu'est-ce qu'il a décidé le Conseil d'État ? Eh ben, de s'en laver les mains. Il a reconnu que le ministre de l'Intérieur avait agi illégalement en mettant à exécution une mesure qui n'avait pas été communiquée. Mais pour le reste, il a entériné les thèses gouvernementales. C'est-à-dire, plusieurs centaines de Syriens avaient demandé des visas dans les consulats des pays limitrophes et le nombre de demandeurs d'asile était passé à 180 personnes en 2012, ce qui semble vraiment faramineux. Le gouvernement était donc en droit d'estimer que la condition d'urgence qui permet d'instaurer ces fameuses VTA pour éviter un afflux massif de migrants clandestins était remplie. Il a jugé que la mesure ne portait par elle-même aucune atteinte au droit d'asile et, pour terminer, il a considéré que s'il y avait bien urgence pour le gouvernement à endiguer un afflux massif, il n'y avait en revanche aucune urgence à suspendre la mesure prise. Eh bien, au royaume du fantasme, visiblement la chasse aux fantômes en France reste reine.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, des ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Alors, ce soir, dans les chroniques numériques, on va parler de la neutralité du net. La neutralité du net, on en a pas mal entendu parler la semaine dernière. Il y a des gens qui voulaient légiférer. Il y a eu un rapport dont on ne sait pas trop qui, sur on ne sait pas trop quoi. Tout le monde s'engueule, c'est un gros bordel, mais personne n'explique vraiment ce que c'est. Donc, on a entendu la neutralité du net, on a entendu la neutralité du web par des journalistes un peu trop pressés. Donc déjà, faudrait souligner un peu l'énorme différence en fait entre le net, qui est Internet, et le web. Puisque Internet, c'est le réseau total des ordinateurs qui s'échangent des informations. Le web, c'est simplement le service qui utilise ce réseau pour permettre de consulter des sites web, en fait, des pages. Donc, par exemple, Skype ou MSN et tous les trucs dans ce genre, ils utilisent Internet, mais ils ne sont pas sur le web. Donc, en gros, ce qui est demandé dans la neutralité du net, et ce sur quoi il va peut-être y avoir une loi bientôt, c'est vraiment quelque chose sur le net, sur le réseau globalement, qui concernerait tout et pas seulement les pages web. Donc la neutralité du net, c'est quand même un principe fondateur d'Internet qui est vieux à peu près comme Internet, qui garantit normalement que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs. Ils doivent rester de simples transmetteurs d'informations. Et la neutralité du net doit donc permettre à tout utilisateur, quel qu'il soit, quelles que soient ses ressources, d'accéder au même réseau dans son intégralité et que les infos que lui il transmet, elles soient en aucun cas observées ou altérées par son fournisseur d'accès à Internet, par exemple, ou par tout autre acteur d'Internet.
Ça veut dire pas de censure et pas de contrôle.
Voilà, ça veut dire que déjà personne ne doit lire les informations qui sont transmises. Ni les lire à aucun moment, ni se servir de leur importance pour les traiter. Ça veut dire par exemple que si moi j'envoie à ma voisine un mail qui dit simplement « qui coulole », il va avoir la même priorité toujours que le mail d'Obama à Hollande qui dit « on lance une guerre nucléaire contre la Corée du Nord ». C'est... Ouais. Ouais. Quoi ?
C'est type au courant.
C'est vrai ? Ce que c'était. Ouais. Le fait qu'il y ait la même priorité ou le fait qu'ils vont lancer une guerre nucléaire contre la Corée du Nord ?
Vas-y,
continue. Bon. Donc, voilà, ces deux mails auront la même priorité, puisque de toute façon, mon fournisseur d'accès n'est pas censé savoir à qui j'ai envoyé mon mail, pourquoi et pour dire quoi. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est que la bande passante qui m'est allouée, c'est-à-dire le service que je peux utiliser, le volume de ce que je peux charger, voir sur Internet, mettre en ligne ou télécharger sur mon ordinateur, il ne doit pas dépendre de ce que c'est. En gros, concrètement, ça veut dire que si je veux voir une vidéo débile sur YouTube, eh ben, le visionnage de cette vidéo débile sur YouTube aura la même priorité qu'une personne qui sera en train de regarder une vidéo sur l'INA pour des recherches sur sa thèse sur la physique quantique. En gros, tout doit avoir la même priorité sur Internet et personne ne doit censurer personne ou brider personne. Donc, voilà. Sauf que, en fait, déjà là, ça marche pas. Par exemple, sur cet exemple concret de vidéo, Free, ça fait maintenant un bon moment, qui bride les connexions à YouTube. Ça veut dire que quand vous êtes abonné Free, vous avez le droit d'aller sur YouTube. Vous avez parfaitement le droit de vous y connecter, vous avez le droit de regarder des vidéos. Par contre, vos vidéos, elles seront extrêmement lentes, surtout aux heures de pointe. Parce que Free a un gros désaccord avec Google, qui est le propriétaire de YouTube. Et en gros, plus vous utilisez, plus vous allez charger de volume d'informations sur votre ordinateur, plus il y a quelqu'un qui doit payer ce qui s'appelle de la bande passante. Comme une vidéo, c'est très lourd, la bande passante, il en faut beaucoup. Et normalement, c'est à Free de payer cette bande passante. En tout cas, c'est comme ça que c'est fait pour le moment. Sauf que Free estime que c'est à YouTube, donc Google, de payer, puisque c'est eux qui diffusent des vidéos et que Free, au final, s'en fiche qu'on regarde des vidéos. Voilà, donc en gros, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et parce qu'il y a une histoire de sous derrière, Free a décidé de brider la bande passante et de faire que, en gros, si vous regardez une vidéo sur YouTube, eh ben, ce sera beaucoup plus long que sur n'importe quel autre serveur de vidéo.
Et pourquoi Free, il demande de l'argent qu'à Google alors qu'il y a d'autres sites de vidéos?
Alors ça, pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont réussi à avoir des accords avec les autres, avec Dailymotion par exemple. Mais ce qui est le plus probable, c'est qu'en fait, le vrai problème se pose avec YouTube parce que c'est celui qui est le plus utilisé. Mais c'est tout à fait possible qu'ils aient fait des accords avec d'autres. Là, le fait que l'accord ne passe pas, c'est qu'aucun des deux veut craquer, ni Google, ni Free. Et aussi qu'en ce moment, ça fait classe, on ne sait pas trop pourquoi, de décider que Google devrait payer quelque chose. Tous les acteurs d'Internet, en ce moment, sont très énervés contre Google. Parce qu'effectivement, Google ne paye rien et se fait plein de thunes. C'est vrai. Et en même temps, c'est difficile de trouver un axe pour leur reprocher, alors on n'aurait qu'à tout leur reprocher. Donc, à la limite, ça, je pense que c'est aussi parce que c'est assez facile de s'en prendre en ce moment à Google, ça plaît à tout le monde. Mais voilà, moi, je vous dis ça. Après, si t'appelles Free et que tu leur dis « j'ai un problème pour regarder YouTube », ils vont me dire « oui, c'est vrai, il y a un petit problème technique, on s'en occupe, vous inquiétez pas ». Ils vont jamais dire qu'ils brident l'accès. Le fait est qu'ils le font. Donc voilà. En fait, pourquoi on entend parler de cette neutralité du web en ce moment? C'est parce que le Conseil national du numérique a rendu un rapport. Un rapport qui estime ce que tout le monde savait déjà, mais bon, c'est bien quand c'est un conseil national qui estime, c'est que la liberté d'expression n'est pas suffisamment protégée dans la loi française face au développement des pratiques de filtrage, de censure et de ralentissement sur Internet. Donc c'est bien, c'est très bien qu'ils s'en soient rendus compte, c'est quand même pas top. Parce que, en gros, les solutions qu'ils proposent dans ce rapport déjà sont pas du tout adaptées. En gros, la première solution qu'ils proposent, c'est simplement d'adapter la loi Léotard sur la liberté de communication, qui est une loi qui permet que c'est le CSA, en fait, le gendarme de tous les des médias audiovisuels, pas d'Internet pour l'instant, mais du coup, l'idée, ce serait de faire que le CSA peut contrôler le net en plus des autres médias audiovisuels. Le problème, c'est que le CSA, ils appliquent des règles sur les médias audiovisuels qui sont déjà assez énervantes parfois pour ces médias-là, mais qui sont complètement impensables pour le net. Par exemple, très récemment, le CSA a condamné France 2 pour avoir diffusé des images de victimes de la guerre au Mali, parce que c'était des images trop violentes. Bon, il y avait les interdictions au moins de 10 ans, il me semble. Mais voilà, il ne faut pas montrer ces images-là de la guerre. Donc on a du mal à imaginer comment ces règles-là, elles pourraient s'appliquer à Internet. Sachant qu'on ne sait pas trop vers qui ils se tourneraient pour dire « vous n'avez pas le droit de diffuser ces images ». Est-ce que ce serait sur le clampin qui les a postées sur son Facebook? Est-ce que ce serait sur Facebook lui-même, mais qui n'est pas une entreprise française, donc qui n'est pas censée respecter cette loi? On ne sait pas exactement vers qui ils se tourneraient, sachant qu'un des problèmes aujourd'hui sur Internet qui fait qu'on met à mal la neutralité du net, c'est que les fournisseurs d'accès, par exemple, et des sites comme Facebook ne reconnaissent aucune responsabilité dans ce qui est diffusé sur leur site ou par leurs clients, ce qui est bien, parce que du coup, ça fait que normalement, ils sont censés être neutres, ce qui est parfait pour la neutralité du net. Donc, si y a des clients de Free, par exemple, qui mettent en ligne un film qui est diffusé avec des droits d'auteur, Free ne peut pas être tenu pour responsable. Et il a rien à en faire. Donc ça, c'est très bien. Le problème est qu'en fait, Free ou Facebook, que ce soit les sites ou les fournisseurs d'accès, ils se permettent de censurer des contenus. Donc là, ils oublient leur rôle neutre et ils prennent un rôle de... Enfin, ils donnent leur avis et ils contrôlent ce qui est diffusé soit par leurs clients pour les fournisseurs, soit sur leur plateforme pour les serveurs.
Alors, si je comprends bien juste, en fait, la neutralité, elle est plus respectée puisque maintenant, il y a trop de thunes en jeu et que du coup, ils se tirent dans les pattes, en gros, ça veut dire
voilà, ça. Voilà, il y a ce problème-là et il y a le fait que, en fait, la plupart des gros acteurs d'Internet, ils prennent en compte les avantages de la neutralité, c'est-à-dire que quand on leur reproche des contenus illégaux sur leur site, ils disent « bah oui, mais c'est pas de ma faute, moi, je mets tout et a priori, je n'enlève rien, des fois, j'enlève a posteriori ». Mais par contre, ils ne prennent pas les inconvénients qui sont la liberté d'expression sur le net. C'est-à-dire que normalement, ils n'ont pas à enlever aucun contenu.
Le beurre à l'argent du beurre, quoi.
C'est comme ça que Facebook laisse passer des centaines et des centaines de commentaires racistes, mais interdit de diffuser une photo de sein sur le... Enfin, une photo de l'origine du monde sur le site du Louvre.
Voilà, par exemple. Donc, à partir de là, c'est problématique. Le beurre, l'argent du beurre, tout ça, tout à fait. Et
non, bon, mais bref, moi je parle en termes techniques.
Non, attends. Non, mais tout à fait, c'est très bien. Voilà, donc il y a ce problème-là. Et dans les autres problèmes de ce rapport, il y a le fait que le Conseil national du numérique estime qu'il faut exiger la transparence. Que les FAI, donc les fournisseurs d'accès à Internet comme Free, Bouygues et tout, et les hébergeurs, ils devraient expliquer clairement dans leurs conditions générales d'utilisation les contenus acceptés ou non. Donc, bon, c'est bien beau la transparence, on a l'impression que ça va régler tout le problème, sauf que, en fait, déjà, personne ne lit jamais les conditions générales d'utilisation, et voilà, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas les lire, que même en les lisant, on ne peut à aucun moment être assuré que le client qui les lit, il est conscient de ce que ça implique, en fait, que c'est, ça va être des termes techniques, ça va être des termes généralistes, et on va lui demander de les comprendre sur une approche concrète ensuite, qu'est-ce que ça va faire à sa vie réellement. Donc quand Free va dire qu'il baisse la bande passante d'un site que peut-être ils dénomineront pas comme YouTube mais comme un terme plus généraliste, tout le monde va signer parce que personne ne va comprendre ce que ça veut dire. Par contre, quand à 18h la personne va aller voir une vidéo sur YouTube, elle va bien comprendre que là il y a un problème. Donc voilà, ça ne sert à rien, la transparence c'est plutôt une sorte d'écran de fumée et ça permet absolument pas de garantir cette neutralité. En plus du coup de ce problème de conditions générales, de toute façon, la base de la neutralité du net, ça reste que le fournisseur n'a à aucun moment à se préoccuper du type d'information qui est transmise par ses clients. Donc à aucun moment les conditions générales ne devraient pouvoir comprendre le fait que tel ou tel type d'information va être bridé ou supprimé ou censuré, puisque de toute façon le fournisseur doit avoir une approche neutre et ne doit à aucun moment se préoccuper de ce qui se passe, de ce que font ses clients. Donc voilà, en gros ça fait longtemps que tout le monde dit que la neutralité du web est n'est plus très respectée sur Internet. Et ce qui est problématique, c'est que... On me fait des signes et je comprends pas tout. Ok, 3 minutes.
Ça veut dire qu'on peut dépasser 2-3 minutes. Voilà.
Merci beaucoup, Aïdé Noir. Et voilà, le mieux, ce serait qu'il n'y ait pas besoin de légiférer de toute façon. C'est ce que tout le monde espère depuis le début. Le problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est devenu des histoires de tellement d'argent qu'en fait, tout le monde s'en fout un peu que la personne qui est devant son propre ordinateur, la neutralité du net, elle soit respectée pour elle ou pas, en fait, tout le monde s'en balance complètement parce que derrière, c'est des histoires de milliards. Et du coup, en fait, ce qui est demandé, c'est tout simplement que dans la loi, la neutralité du net, elle soit écrite. C'est-à-dire, la neutralité du net doit être respectée par tous les acteurs d'Internet.
Mais pour ça, ça veut dire qu'ils doivent aussi convenir de qui c'est qui paye quoi. Sinon, ça ne marchera jamais.
Ça, c'est déjà convenu. C'est à Free de payer, en l'occurrence. Dans moi, ce que j'ai compris dans cette histoire, ce serait à Free de payer sur cette histoire de bande passante. Après, s'ils veulent s'arranger avec Google, discuter dans un bureau, faire de la pub à machin et à truc, et décider que Google, ils veulent bien participer, c'est une chose. Mais ce n'est pas aux usagers, en attendant, d'avoir un usage de site qui est complètement pourri et qui est hyper lent. Que eux, ils veulent négocier entre eux, c'est une chose, en fait, on s'en fout. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est les utilisateurs qui payent. Et du coup, ce qui est demandé, c'est simplement d'écrire, comme il est écrit qu'on n'a pas le droit de voler dans la loi, d'écrire juste que la neutralité du net doit être respectée, et point. Et en fait, à force de rajouter des détails et d'essayer de légiférer sur un truc hyper compliqué, ça fait qu'il y a forcément des bugs, il y a forcément des endroits où ça va pas.
Mais ça arrange plein de gouvernements de que ça soit remis en question cette neutralité.
C'est pour ça que c'est un côté assez rigolo que le gouvernement ait demandé un rapport sur la neutralité du net, parce que en vrai, si on veut parler de ça, c'est quand même les gouvernements qui la mettent à mal le plus souvent. Enfin, les sites qui sont censurés, la plupart du temps, ils le sont par des gouvernements. Les gros piratages informatiques, ils sont financés par des gouvernements. Voilà, donc c'est un peu une vaste blague ce rapport, hein, c'est sûr.
Bon. On arrête là du coup, un petit agenda très 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 rapide.
Eh hey, tu dis ça tranquille hein.
Ouais du coup, ah, vas-y, j'ai bien le droit de faire des chroniques des fois.
Alors rapidement donc il va y avoir à Saint-Étienne ce week-end le FemMC Fest. C'est des meufs des Gouines et des Trans qui vont prendre de la place, qui font du hip-hop, et donc ça sera le 29, le 30, le 31 et le 1er. Et donc en après-midi, il y a des ateliers sur plein de choses qui sont en mixité choisie meuf Gwyn Trans, et le soir il y a plein de meufs sur scène qui font du hip-hop, et les soirées sont mixtes, et c'est 10€ pour les 3 jours et 5€ par soir. Voilà, et c'est à la Gueule Noire, 16 rue du Mont, à Saint-Étienne. Et sinon, sur ce même week-end, il y a la friche maraîchère des Lantinières à Dijon qui fait son festival aussi sur le 29, 30 et 31. Et donc la friche, qu'est-ce que c'est? C'est un jardin collectif au départ qui s'appelle le Pot de Colle, qui a été squatté il y a 3 ans, et puis depuis c'est le quartier entier qui est squatté. Et voilà, et donc vous pouvez retrouver toutes ces infos sur internet. Et donc le quartier des Lantinières, c'est 3945 rue Philippe Guignard à Dijon, et voilà, c'est la ligne 12 arrêt Salengro.
Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Bonsoir.
À la semaine prochaine.
Je vous laisse avec Ciao. Les Noirs.